Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Didier Blé.
Nous sommes le lundi 15 mai 2023. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce premier journal. Fin des travaux du 11e sommet des forces terrestres africaines sur le thème « Relever les défis de la sécurité grâce au partenariat civilo-militaire ». Les 300 participants ont mis en commun des solutions et décident d'associer les populations à la lutte contre le terrorisme. À Bandoukou, des agents des médias de plusieurs régions du nord du pays ont récemment été formés sur les thématiques liées à l'extrémisme violent et au renforcement de la cohésion sociale. Jérôme Kouassi nous en parlera. Hors de chez nous, au Sénégal, procès à Djissar, une ex-masseuse contre l'opposant Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor est appelé à se présenter au tribunal ce lundi. La revue des titres vous sera présentée par Aoussi Potin. Et puis, dernière articulation de cette édition, l'invité de la rédaction, Landry Amoussou, est notre invité ce lundi, assistant en droit à l'université Pédéféro-Gon Koulibaly de Korogo. L'entretien conduit par Francis Cassi portera sur le découpage électoral entre pouvoir et opposition concernant les élections municipales et régionales. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Fin des travaux du 11e sommet des forces terrestres africaines sur le thème « Relever les défis de la sécurité grâce au partenariat civilo-militaire ». Les 300 participants ont mis en commun des solutions et décident d'associer les populations à la lutte contre le terrorisme. Et mieux, le détour à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville a été d'une grande inspiration pour le partenariat entre différents pays de forces terrestres africaines, selon les forces partenaires américaine. À cette clôture solennelle, le vendredi 12 mai 2023, le colonel Matthew Corp, directeur de la coopération en matière de sécurité, Force opérationnelle Afrique, a reconnu l'intérêt de la confiance au cours de ce sommet. On l'écoute.
I also want to thank all the forces terrestres africaines démontrent ce niveau d'engagement, de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique avec nos alliés. Aussi la relation entre les militaires, les civils. Cela montre le pouvoir de la confiance. Et tout au début de ce sommet, les Ivoiriens ont placé une confiance en nous et je voudrais véritablement m'en féliciter. Nous sommes très fiers d'être engagés avec la Côte d'Ivoire comme partenaire. Donc la confiance entre les corps, entre les militaires, entre nos différentes populations, entre les différentes autorités.
Le colonel Matthew Cope, directeur de la coopération en matière de sécurité, force opérationnelle, Afrique. Pour le chef d'état-major général ivoirien, le général Lassina Doumbia, la recommandation de ces travaux requiert un caractère optimiste.
Leur impact ne sera pleinement pertinent qu'à l'aune de leur mise en œuvre individuelle par les différentes armées de terre participantes. C'est à cela que je voudrais vous engager quand vous rejoindrez vos armées respectives au terme de ce sommet. Je demeure cependant persuadé qu'un autre objectif, bien plus mesurable immédiatement, a été atteint. Celui de constituer un réseau d'affinité et de fraternité d'armes entre chefs militaires d'Afrique. Il est certain que le programme des travaux, alternant réflexion académique et activité de cohésion, y aura grandement contribué. C'est ce réseau que je vous exhorte à entretenir. Il sera bien plus utile quand il s'agira d'adresser des solutions pertinentes à une adversité sans cesse en mutation et en mouvement.
C'était donc le général Lassina Doumbia, chef d'état-major général ivoirien. Et puis prière de nous excuser pour la qualité du son du général Matthew Kopp. Rappelons que le 11e sommet des forces terrestres africaines ferme ses portes à Abidjan. Le 12e, quant à lui, se projette en 2024 à Lusaka, en Zambie. À Bandoukou, 50 professionnels de médias, y compris les agents des radios communautaires des régions du Folon, Bagoué, Tchologo, Poro, Mounkani, de la télévision, de la presse en ligne, ont vu récemment leurs compétences renforcées sur des thématiques liées à l'extrémisme violent et au renforcement de la cohésion sociale. Dans le courant de cette session de capacitation initiée par le PNUD, un réseau de journalistes a été mis en place. De Bandoukou, la correspondance de Jérôme Kouassi.
Les missions de ce réseau de professionnels de médias avec Aimé Bobé Rirangar, responsable du bureau du PNUD de Bandoukou.
Pour soutenir non seulement les initiatives du PNUD, mais surtout appuyer le gouvernement dans l'ensemble de ses actions et efforts pour endiguer le phénomène de l'extrémisme violent, pour faire en sorte que la lutte et la prévention de l'extrémisme violent soit un combat de tout le monde.
L'engagement des acteurs de médias présents par la voix de Thier Traoré Médangué, journaliste à la nouvelle chaîne ivoirienne, le président de la plateforme.
Nous sommes convaincus que la lutte contre l'extrémisme violent passe par la sensibilisation, l'information et l'éducation des communautés. Nous sommes déterminés à veiller à ce que cette thématique soit intégrée dans nos programmes médiatiques.
Le journaliste, donc, sur ces questions, doit être bien formé pour éviter les risques. Issambra Koué, web rédactrice participante.
J'ai appris à faire la différence entre les différents termes qui sont terrorisme, extrémisme violent, islamique, islamiste. Utiliser les termes comme extrémisme violent au lieu de terrorisme. Donc je pense qu'un journaliste qui n'a pas fait ce genre de formation est un risque pour lui-même et un risque aussi pour la population parce qu'il expose la population à plusieurs dangers. Cette formation est la bienvenue pour tout acteur de médias qui voudrait vraiment porter la paix et la cohésion sociale.
Cet atelier de formation a été organisé par le PNUD avec le soutien financier de la République fédérale d'Allemagne qui accompagne le gouvernement ivoirien à travers le projet Prévention de l'extrémisme violent, la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kouassi, Bouna, Radio de la Paix.
Le projet C'est la vie 2.0, l'ONG Messi et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire veulent faire progresser la situation de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents, des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'un atelier s'est tenu le mercredi 10 mai 2023 dans la commune de Cocody avec les réseaux de la société civile afin de développer une feuille de route visant à répertorier et harmoniser les interventions sur les droits sexuels et reproductifs dans notre pays. Agathe Blanc-Camisoko est chef du projet C'est la vie 2.0 et membre de la FJC.
C'est la vie, c'est un projet qui a une plus grande envergure. Le projet est porté par une ONG sénégalaise, l'ONG RAUS, qui se déploie au Nigeria, en Guinée, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et bien entendu au Sénégal. Nous sommes là dans le cadre de l'atelier d'harmonisation des interventions et de mise à jour de la feuille de route nationale sur l'éducation à la santé et à la vie saine. On parle d'intervention et l'association des femmes juristes et l'ONG Messi ne peuvent pas à elles seules mener toutes les interventions au niveau national. Donc il faut être accompagné de toutes ces organisations-là. Il faut également pouvoir identifier toutes les interventions de sorte à ce que nous puissions, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, parler d'une seule et même voix, puisque c'est la seule et même thématique qui est développée. Au niveau de la santé sexuelle et reproductive, le tableau, il est plus ou moins gris, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais l'environnement juridique, l'environnement légal reste à consolider. Et comment consolider cet environnement? C'est à travers l'adoption d'une loi sur la santé de la reproduction. Et cette loi n'est pas encore adoptée par la Côte d'Ivoire, alors que tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ont une loi sur la santé de la reproduction qui permet aussi bien aux prestataires de santé qu'aux populations, notamment les adolescents et jeunes, de jouir de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. C'est cet élément-là qui manque pour que ce soit mieux.
Agathe Blanc-Camisoko, chef du projet C'est la vie 2.0 et membre de l'AFJC. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, la direction des établissements scolaires et certains de leurs partenaires de mise en œuvre se sont réunis du 8 au 13 mai 2023 à Yamsoukro dans le cadre d'un atelier. Le but est de valider les versions améliorées des plateformes de formation en ligne élaborées pour les enseignants, notamment les instituteurs, directeurs d'écoles primaires et préscolaires et les chefs d'établissement secondaire. Un reportage
élaborées depuis 2021 et mises en expérimentation, ces plateformes au nombre de 3 ont servi à la formation et à l'évaluation des bénéficiaires. Seulement, à la fin de ce processus, des observations ont été faites, lesquelles sont prises en compte et font l'objet d'opérationnalisation et d'amélioration pour un meilleur suivi et évaluation des bénéficiaires. Aya Ali, technopédagogue à IFADEM PAPDES.
Sur la mise en place des plateformes pour les différents dispositifs de formation instituteurs, directeurs d'école préscolaire, primaire et les chefs d'établissement du secondaire. À l'occasion donc des différentes relectures, il est apparu qu'il fallait améliorer les plateformes existantes.
De nouveaux points d'appropriation sont donc venus enrichir ces plateformes, explique Soumaïla Kané, responsable projet IFADEM PAPDES.
Avant, l'auditeur de la formation lisait uniquement le texte qui lui était donné. Maintenant, il va avoir le texte en audio et il va l'avoir en vidéo. Donc il a trois points d'appropriation qui vont donc lui permettre de bien comprendre ce qui est dit. Et c'est le lieu de remercier l'Agence universelle de la francophonie, l'OIF et surtout l'AFD qui apporte le financement.
Ces plateformes améliorées seront d'une grande utilité, se réjouit Koulibaly Souleymane, proviseur du lycée Garçon de Bengerville.
Ce sont des plateformes qui permettent au chef d'établissement d'améliorer sa gestion quotidienne.
Ces trois plateformes feront l'objet de validations au terme de cet atelier. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Page africaine au Sénégal. Le Sénégal est dans l'expectative à la veille du procès qui oppose Hadji Sarr, une ex-masseuse, contre l'opposant Ousmane Sonko, leader de l'opposition qu'elle accuse de viol et menace de mort. Le procès devant s'ouvrir mardi, le maire de Ziguinchor devra se présenter la veille, donc ce lundi, devant le greffe de la chambre criminelle. En cas de non-comparution, plusieurs cas de figure sont avancés par les spécialistes du droit sénégalais, où Ousmane Sonko se trouvait ces derniers jours en Casamance, dans le sud du pays, et ses avocats demandent à l'État de garantir son droit à se rendre librement au tribunal. Sans transition, il nous a rejoint dans ce studio pour le tour des casques à journaux. Il s'agit de Aoussi Potin. Potin, bonjour.
Bonjour à vous Didier, bonjour à toutes et à tous. Élections locales 2023 qui donc auront comme épicentre les municipales et régionales occupent l'essentiel des unes des journaux parus ce jour. Et sur le terrain, les différentes chapelles politiques battent déjà le pavé avec leurs différents candidats. Municipales et régionales 2023, les éléphants du RHDP sur le terrain, titre le quotidien Le Matin qui toujours à sa une offre une mosaïque des régions visitées par les 10 éléphants. Fête bloc derrière les candidats choisis, affiche à sa une l'expression, rapportant un extrait des propos tenus par le secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bakongo à Gagnoua, présentant officiellement les candidats de son parti aux populations. Nouveau partenaire politique du RHDP, Notre Voix nous apprend à travers sa une que Afingessan était donc hier chez le roi du Moronou. Raison de cette visite, Didier ? Eh bien, réponse avec le titre de une de Notre Voix. De ce jour, élection des conseils régionaux du 2 septembre 2023, Afi confie sa candidature au roi et chef du Moronou. La bataille sera rude, c'est l'alerte que lance à sa une de ce jour l'Inter, en lorgnant du côté de la région du Cavali. D'où le titre suivant, élection locale 2023, rude bataille en perspective dans le Cavali, duel épique entre l'actuel et l'ex-ministre de la fonction publique. Et puis on va sauter déjà le cas donc de ces élections locales 2023 avec le patriote qui à sa une déjà nous projette en 2025 en rapportant encore des propos du secrétaire exécutif du RHDP. Si c'est Bakongo depuis Gagnoua, en 2025 notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Et toujours indiquant donc que le secrétaire exécutif du RHDP a laissé entendre donc que les élections locales sont donc un test pour la présidentielle à venir. Un avis que semble ne pas partager le nouveau réveil qui titre à sa une, malgré le forcing et la propagande, le RHDP ne survivra pas à Ouattara. Terminons par le temps, Didier. Le temps, voilà, qui s'intéresse à la CEI, donc toujours dans le ton des élections, avec son titre suivant, Commission électorale indépendante, le CAC Gbagbo divise la CEI. Deux camps s'affrontent, tout sur la réunion tenue à la CEI.
Merci à vous, Poutin. Et puis, on vous retrouve dans le journal 8h.
Absolument.
L'invité de la rédaction ce jour est Landry Amoussou. Il est assistant en droit à l'université Péléphorogon Koulibaly de Korogo. Pour lui, la polémique actuelle sur le découpage électoral entre pouvoir et opposition à la veille des élections municipales et régionales est normale. Toutefois, pour la paix, il les appelle à discuter. Docteur Landry Amoussou répond en effet donc aux questions de Francis Cassie.
Docteur Landry Amoussou, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi un découpage électoral ?
C'est un mécanisme par lequel le territoire national est subdivisé en circonscriptions électorales et destiné à permettre et à favoriser l'expression des citoyens par le vote.
Contrairement à ce découpage, existe-t-il encore un autre découpage ?
Oui, il existe d'autres découpages. Il y a le découpage administratif où le territoire est subdivisé en régions, départements, sous-préfectures, villages. Oui, ce découpage existe.
Alors, à quoi obéit ce découpage électoral ?
Ce mécanisme-là permet effectivement de favoriser l'expression du vote des citoyens pour que chaque région, chaque département puisse exprimer effectivement sa participation par le vote. En fait.
Donc dans ce cas, quels sont les critères qu'il faut réunir pour un découpage électoral ?
Au niveau des critères, il y a beaucoup de débats parce que les critères ne sont pas forcément objectifs, mais il y a deux critères principaux pour lesquels tout le monde s'accorde. C'est le critère de la superficie et de la population.
Vous dites que c'est lié aux élections, donc ça veut dire que c'est purement politique.
C'est un caractère politique, effectivement, puisqu'il s'agit de s'assurer que chaque Ivoirien puisse effectivement exprimer son vote. Oui, c'est une connotation politique évidente.
Mais quel est le délai qu'on doit respecter pour un découpage électoral? Est-ce que chaque régime peut revoir ou refaire un découpage électoral?
Bien sûr, c'est laissé à la latitude du pouvoir politique, parce que ça peut être également un élément de campagne. On peut décrier un découpage électoral. Le découpage fait toujours l'objet de controverses. Parce que si on prend le critère de population, par exemple, on dit qu'on a 100 000 habitants. Donc, comme on a 100 000 habitants, on va avoir deux députés. Mais attention, on dit dans ces 100 000 habitants-là, quelle est la proportion d'Ivoiriens? Vous pouvez avoir 100 000 habitants et 2 000 Ivoiriens. Donc, peut-être vous aurez un seul député. Mais une autre région qui a 5 000 habitants et 4 000 Ivoiriens aura beaucoup plus de députés. Donc, effectivement, même le critère de population peut donner lieu à des débats.
Est-ce que vous pouvez revenir sur les deux critères importants avec lesquels on doit faire un découpage?
Les deux critères pour lesquels il y a un consensus, ça reste celui de la superficie et celui de la population, du nombre d'habitants.
Aujourd'hui, on constate qu'il y a une polémique entre l'opposition et le pouvoir en place par rapport au découpage électoral.
Effectivement.
Et selon vous, pourquoi cette polémique?
Alors, cette polémique, elle n'est pas près de s'arrêter parce que le découpage a toujours une visée politique, indéniablement. Et parfois, la fraude commence généralement par là. C'est-à-dire, il y a des techniques qui existent pour avoir beaucoup plus de députés. On peut toujours les décrier, mais ça existe dans le droit. Donc, l'opposition estime qu'elle n'a pas assez de députés, que le découpage s'est mal fait. Le pouvoir estime que ce découpage est assez représentatif de la population. Donc, effectivement, c'est un débat qui n'est pas prêt de s'arrêter. Même si un autre régime, ce découpage va faire l'objet de critiques. Il faut qu'on arrive à un certain niveau dans la démocratie pour que l'opposition et le parti au pouvoir s'accordent sur un découpage pour qu'il n'y ait pas toujours de la polémique, surtout dans nos pays africains. En Europe, ils ont stabilisé, mais ici, il y a toujours un débat.
Alors, qui doit faire le découpage électoral selon la loi?
C'est le pouvoir en place. C'est les députés qui vont entériner le découpage électoral.
Donc, si un parti a assez de députés à l'Assemblée, ça peut pencher dans son sens, c'est ça?
Oui, un parti qui a assez de députés peut modifier la Constitution. On peut faire beaucoup de choses à partir du moment où on a les députés. Donc, le découpage est un élément crucial dans la vie politique. L'exécutif, s'il veut bien gouverner, il doit avoir un contrôle du Parlement. Il faut maîtriser le Parlement.
Mais est-ce que c'est démocratique, ça?
Mais écoutez, ils sont allés aux élections, ils ont remporté. Donc, ils ont toute une légitimité pour diriger le pays. Maintenant, on peut discuter. Et vous connaissez la politique. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on met tout en place pour se maintenir. C'est un jeu politique, c'est tout à fait normal.
Tout à l'heure, vous avez semblé dire que lorsqu'on atteindra un certain niveau de la démocratie, pouvoir et opposition peut-être pourraient se mettre ensemble pour le découpage électoral.
Oui, parce que si on estime que c'est un élément conflictuel dans la société, on peut tomber d'accord. Ça se fait. Dans les grandes démocraties, l'opposition n'est pas considérée comme des pestiférés. On les fait asseoir à la table et puis on dit, ben écoutez, qu'est-ce qui ne va pas? Non, nous on a 100 000 habitants, on n'a que 2 députés, alors que là-bas, vous n'avez que 5 000 habitants, vous avez 7 députés, nous ne sommes pas d'accord. Oui, on peut discuter. On peut tomber d'accord sur un consensus. Ça peut se faire.
De mémoire d'analyste, d'expert en droit, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du nombre de fois qu'il y a eu ce découpage électoral?
Je pense que chaque régime a changé. Sous le président Gbagbo, le découpage électoral donnait, je n'ai pas le chiffre exact, mais près de 200 et quelques députés. Sous le président Ouattara, on est passé à plus de 255. Donc il y a eu 30 députés en plus. Donc lorsque on part aux élections, ils sont plus ou moins confortés que dans le Nord, ils auront beaucoup plus de députés. Oui, je suis presque persuadé que s'il y a un nouveau régime, il va remettre en cause ce découpage pour s'assurer beaucoup plus de voix. C'est un jeu politique, hein. Mais si ce jeu politique se fait au détriment de la paix sociale, il faut bien qu'on s'arrête et puis qu'on discute.
Comment est-ce que selon vous, cela peut se faire au détriment de la paix sociale?
C'est-à-dire si le découpage électoral se termine toujours en violence post-électorale, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on s'assoit et on discute. Parce qu'on ne va pas continuer à faire des élections et puis chaque fois se solder par des morts. Donc il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Tout ce qui peut constituer des sources de conflit, il faut que le pouvoir invite l'opposition à la table, dise bon écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir la paix sociale des Ivoiriens qui sont fatigués, qui ont d'autres problèmes que la politique.
Donc pour vous, dans quelques mois, on va aller aux élections municipales et régionales. Par rapport à cette polémique entre pouvoir et opposition sur le découpage électoral, quel conseil vous donnez?
Je pense que les Ivoiriens ont tellement de soucis que chaque fois se référer à la politique. Le découpage, objectivement, je pense qu'il pose problème. On peut s'asseoir et discuter. L'opposition est invitée à la table. On dit, bon, écoutez, donnons-nous les conditions pour la paix dans quelques années. Je pense qu'ils peuvent le faire.
Docteur Landry Amoussou, je vous remercie.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Pour l'invité de la rédaction ce jour, Landry Amoussou, assistant en droit à l'université Pélo Forogon Clubali, était notre invité ce matin. Il répondait aux questions de Francis Cassis. C'est la fin de ces 7 heures, le rappel des titres. Fin des travaux du 11e sommet des forces terrestres africaines sur le thème « Relever les défis de la sécurité grâce au partenariat civilo-militaire ». Les 300 participants ont mis en commun des solutions et décident d'associer les populations à la lutte contre le terrorisme. Et puis à Bondoukou, des agents des médias de plusieurs régions du nord du pays ont été récemment formés sur les thématiques liées à l'extrémisme violent et au renforcement de la cohésion sociale. Et puis, en page africaine au Sénégal, procès Hadji Sarr, une ex-masseuse contre l'opposant Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor est appelé à se présenter au tribunal ce lundi. Nous serons là à 8h pour la deuxième édition. D'ici là, retrouvez Sonia Nzian pour la suite des Matins de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.